France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, la sixième étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde, avec des confidences, notre séquence inattendue, des livres de poche et des reportages. C'est notre carnet de bord aujourd'hui. Dans le club francophone, nous rendrons hommage au merveilleux Jean Rochefort. Sa fille cadette Clémence a écrit un livre sur les souvenirs liés à son père. Elle est en plateau avec nous, des instants facétieux et émouvants. Nous irons en Suisse avec Grégoire Delacour, en Arménie avec Lionel Trouillot, à New York avec une libraire, et vous entendrez aussi l'ancien président François Hollande, la Belge Caroline Lamarche et la chanteuse réunionnaise Christine Salem.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
On commence cette émission avec La Confidence. Cet été, 9 personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est le président français François Hollande qui vous fait une confidence qui va vous surprendre.
C'est un 20h le soir. Ce n'est pas n'importe quel soir, c'est le 6 mai 2012. Et je sais, par des enquêtes qui me sont transmises, que je suis président de la République ce soir-là. Mais comment en être sûr? En regardant la télévision. C'est à 20h que sera vu le visage du président. Si c'est le mien, c'est donc que l'enquête sera confirmée. Mais si ce n'est pas le mien, c'est que l'enquête se sera trompée. Je ne veux croire qu'à la télévision. C'est elle qui va authentifier devant les Français mon élection. Alors, je suis dans mon bureau, à la présidence du Conseil Général de la Corrèze, à Tulle, et je demande à mes collaborateurs, mettez-moi la télévision à 20h. Et malheur, ils n'arrivent pas à allumer l'appareil de télévision. Ils cherchent les télécommandes, ils se trompent, c'est très compliqué maintenant, le branchement n'est pas fait, il est 8h moins 1, il reste encore 30 secondes, donc, peut-être que les Français apprendront avant moi que je suis président de la République. Et bonheur de la technique, habileté de mon collaborateur, à 20h précise, la télévision s'est allumée et je suis devenu donc président de la République.
Vous avez failli ne pas le savoir tout de suite.
J'ai failli ne pas le savoir.
Avec la rumeur de la rue.
Exactement. Mais voilà pourquoi la télévision est aussi importante dans notre vie et notamment notre vie politique. Ce qui n'est pas dit à la télévision ce soir-là n'est pas finalement la proclamation du résultat.
Merci monsieur le président.
Après cette confidence inédite à la radio de François Hollande, qui a publié des albums jeunesse sur l'État et les institutions chez Glénat, voici la séquence inattendue. Le principe, emmener un auteur ou un artiste dans un lieu improbable ou inhabituel. Aujourd'hui, Grégoire Delacour imagine un voyage immobile depuis les bords du lac Léman en Suisse. Et bonjour Grégoire Delacour.
Emmanuel Kérad, bonjour.
On est dans un lieu que vous avez choisi, qui vous fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. On est en Suisse, pour tout dire, à Morges.
Alors nous sommes à Morges, dans une toute petite rue ombragée, ce qui est bien agréable parce qu'il fait 28 degrés au soleil aujourd'hui. Ça s'appelle la rue des Alpes. Et alors curieusement, les Alpes, c'est un massif extrêmement grand. Cette rue, elle est toute petite. Donc déjà, le paradoxe entre la prétention rue des Alpes et la ruelle où nous sommes m'amuse. Mais surtout, cette petite ruelle évoque un pont pour moi, un pont entre la ville qu'on entend derrière nous, le bruit, la violence, cette humanité brouillonne et grouillonne. Et de l'autre côté, une étendue d'eau assez calme. Et c'est ce point d'équilibre, cette bascule où je me trouve, qui m'enchante et m'évoque un lieu extraordinaire, qui est la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence.
Alors imaginons qu'on est à la Fondation Mag. Grégoire Delacour, vous ouvrez la porte, tiens, de la Fondation. Qu'est-ce que vous voyez en premier ?
Alors la première chose qu'on voit, c'est la tiédeur de l'air, c'est la fraîcheur de l'endroit sans qu'il y ait de climatisation. Parce que l'architecte était extraordinaire, il a fait bien avant l'Institut du Monde Arabe, ces fameux volets, ces moucharabiés qui tournent en fonction de la lumière. Et donc déjà, on rentre dans un lieu extrêmement paisible, extrêmement frais. Donc moi, ce que je vois d'abord, c'est la fraîcheur. Puis ensuite, ce que je vois, c'est Chagall, c'est Miro, c'est Braque. C'est des gens que j'ai adorés, que j'ai jamais pu rencontrer, qui sont toujours là avec leurs œuvres. Et c'est un endroit où il n'y a jamais beaucoup de monde, ce qui fait qu'on peut prendre le temps de regarder, le temps de ressentir dedans. Il y a quelque chose d'extraordinaire à la Fondation MAG, c'est dehors. C'est quand on sort, le chemin artistique, le jaillissement du talent humain continue par les sculptures, par les fontaines, par les remparts. Et les petits remparts que j'ai en tête m'évoquent exactement cette ruelle. Ils sont ombragés. Derrière moi, j'ai la Fondation bruyante, grouillonne, le résumé du talent de l'humanité. Et à droite, au lieu d'une étendue d'eau comme ici, très plate d'ailleurs, il faut reconnaître, le Léman, c'est quand même pas non plus fondard.
Pas toujours, hein. Parfois, c'est agité.
Parfois,
hein.
C'est agité. Oui,
oui. C'est dangereux même.
C'est vrai. C'est vrai. Et on a une étendue verte de nature, de pins, d'oliviers du sud qui mène très très loin à la mer. Et ce point d'équilibre que je ressens ici rue des Alpes m'évoque celui bouleversant de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence.
Et alors ce point d'équilibre, Grégoire, dans votre roman Un jour viendra couleur d'orange, il y a aussi cette notion avec un ado de 13 ans qui vit dans un monde imaginaire, ordonné par les chiffres et les couleurs. C'est une histoire humaniste qui montre l'innocence dans un monde révolté. Là aussi, c'est difficile de trouver le point d'équilibre.
Exactement, c'est le sujet du livre, c'est l'équilibre entre la différence, la tolérance, l'amour, la haine, la colère, la violence. Et le point d'équilibre, j'ai trouvé entre cette colère et l'amour, c'est que les deux parlent d'espérance. La colère, c'est un champ d'espoir qui s'exprime mal, qui s'exprime brutalement, mais à l'arrivée, il y a une espérance formidable. Et l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est avant tout une espérance. Et j'ai croisé dans ce livre ces deux points, amour et colère, pour ouvrir une espérance.
La colère, c'est un peu le bruit de la ville. L'espérance, c'est l'océan de verdure, par exemple, ou bien le lac.
Ah bah là, Emmanuel, vous me, je suis très très content de ce que vous dites parce que vous résumez parfaitement en images là où nous sommes.
La séquence, oui.
Oui, là où nous sommes, là où dans ma tête je suis à Saint-Paul et je me retrouve dans mon livre. Donc je ne suis pas dans deux mais trois endroits grâce à vous. Merci.
Et le père, il vit mal la différence de son fils. C'est ça le problème.
C'est très dur quand on est adulte, justement, de retrouver cette part d'enfance, de réadmettre la poésie chez l'autre, la différence chez l'autre, la bienveillance de l'autre, parce qu'on est tellement devenus des grandes personnes sérieuses qu'on a oublié qu'il faut de la déraison pour être heureux. Et il a du mal, Pierre. Il a du mal, alors il est en colère et il va essayer de retrouver son fils à l'arrivée de cette colère.
La colère, c'est l'espoir pour vous, Grégoire Delacour ?
Oui, la colère, c'est de l'espoir. C'est un champ d'espoir, c'est une espérance immense. C'est l'expression de ça. C'est-à-dire, on est en colère parce qu'on veut quelque chose d'autre. On espère quelque chose qui nous conviendra mieux. Et comme on n'arrive pas à le dire avec la bienveillance, avec la gentillesse, on est obligé de gueuler. Et à un moment, on gueule parce qu'on nous écoute plus. À l'arrivée, on veut des choses simples. On veut des choses simples. Dans le livre, son mantra, c'est « Je veux juste une vie juste ». On ne veut pas plus, on ne veut pas des diamants qui tombent du ciel. On veut juste être des humains respectés, considérés et peut-être appréciés.
C'est ce que veut aussi votre personnage, Jemila, qui est en lutte contre ses frères radicalisés. Et vous montrez ce racisme systématique avec cette génération maghrébine. Ça aussi, c'est un point d'ancrage de votre roman et puis un point de la société difficile à résoudre et qui s'amplifie. On a l'impression qu'il y a des vagues comme ça. Ça se calme, ça s'amplifie.
Oui, on est toujours dans la difficulté d'accepter l'autre. Alors le petit gamin qui vit dans son univers en est un exemple. Jamila en est un autre. Tout ce qui nous effraie, c'est la différence. Et en fait, on se rend compte que ce qui est terrible dans la différence, on la rejette parce qu'on a peur qu'elle soit mieux que nous. Finalement, on a peur que l'autre soit mieux que nous. Donc on est raciste, donc on est intolérant. Et si l'autre était meilleur que nous, finalement, on ne veut pas prendre ce risque-là, alors on le rejette. Et mes personnages vont se battre avec leur différence parce que la différence, c'est une chance. La différence, c'est un enrichissement du monde.
Alors, les gilets jaunes, l'islam radical, la révolte, l'humanisme. Vous n'avez pas peur, Grégoire, qu'on dise que votre livre, il cumule un peu les clichés, que c'est un peu facile ?
Oh ben, je laisse dire aux gens ce qu'ils pensent. On vit dans un monde où on ne vit que de ça. Vous voyez, j'ai même pas parlé du virus, donc il n'y a pas tous les clichés.
Oui, c'est vrai.
Y a pas... Non, mais ça nous concerne tellement. J'ai pris les gilets jaunes, j'aurais pu prendre mes 68 ou d'autres manifestations. C'est des grandes colères du peuple. Moi, c'est le monde dans lequel je vis, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui détruit les gens. Hein. C'est un livre sur ce qui nous abîme et qui essaie de trouver ce qui nous réunit. Et je pense qu'on a beaucoup plus de points communs qu'on pense. Il faut juste, s'il vous plaît, faire un pas vers l'autre. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps à passer sur cette terre, le gâchons pas, quoi.
Mais depuis la liste de mes envies, vous explorez le monde, en fait, avec des phénomènes de société évidents.
Oui, en toile de fond, la société, parce que j'aime bien essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. J'explore le monde, mais le nôtre, c'est-à-dire notre intériorité. J'explore le cœur et les tripes des hommes et des femmes.
Voilà, un jour viendra couleur d'orange, le livre de Grégoire Delacour paru chez Grasset. Merci Grégoire.
Merci Emmanuel.
À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien sélectionné dans le cadre des 15 ans du programme initial. L'écrivain haïtien Lionel Trouillot avait fait une balade avec nous à Erevan lors du sommet de la francophonie en Arménie. Ce sera après l'artiste sénégalais Las. C'était Las avec Yako Mom sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et nous voici arrivés dans le centre d'Erevan avec Lionel Trouillot qui nous accompagne dans ces rues de la ville d'Erevan, ici en Arménie. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Comment allez-vous Lionel?
Eh bien ça va.
Merci beaucoup de nous accompagner dans ces rues d'Erevan. On est dans un lieu très animé, très commercial aussi, avec ici une rue piétonne, qui est centrale ici à Erevan, qui monte un petit peu car on est en altitude. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude à Erevan. Et on a en face de nous, Lionel, l'opéra.
Les monuments sont très beaux ici. Enfin, les édifices, de manière générale, me semblent très beaux. Les églises, je ne les fréquente pas, mais elles sont très belles. Et même l'opéra, les théâtres. J'ai remarqué qu'il y a un nombre imposant de théâtres dans cette ville. C'est intéressant, contrairement à chez moi, où il n'y en a pas du tout.
Quelle anecdote, quelle histoire vous est arrivée, histoire étonnante, à travers vos voyages francophones, par exemple, tiens?
Il y en a une, je peux la considérer comme étonnante parce que les propos sont tellement déplacés, mais on m'a fait cette question au moins deux fois. Je parlais dans une librairie à Paris et j'avais fini mon petit baratin, j'étais fatigué, je voulais partir et la libraire a demandé s'il y avait une dernière question. Il y a un monsieur qui se lève, je fais semblant de ne pas le voir parce que je veux partir. Il insiste et il me pose la question suivante. Alors monsieur, vous parlez si bien français, vous écrivez si bien le français, Est-ce que finalement la colonisation, elle n'avait pas eu quelque chose de bien?
Ah oui, quand même.
Celle-là, elle m'est restée.
Avec une jeune femme qui chante juste devant nous, une voix magnifique. Il y a des surprises comme ça dans les rues d'Erevan. On pourrait croire que c'est organisé, mais c'est complètement imprévu, Lionel Trouillot. On fait des rencontres au fur et à mesure qu'on se promène dans ces rues, avec une ville très étonnante, des musiciens, une sorte d'apaisement et de bien-être à Erevan.
C'est vrai, c'est l'impression que j'ai dans les quartiers qu'on a visités.
Alors Lionel, vous avez publié « Ne m'appelle pas capitaine » chez Actes Sud, un court roman fascinant qui se déroule en Haïti mais qui est universel. Une jeune fille, issue de la bourgeoisie, va se confronter à un quartier pauvre et populaire, comme on peut le voir ici à Erevan, et dans de nombreuses villes hein, d'ailleurs, deux mondes comme ça se côtoient mais ne se connaissent pas.
Oui, je pense que c'est le cas en Haïti. Je travaille à partir d'Haïti puisque c'est la réalité que je connais le mieux. Mais je ne pense pas que cela soit spécifique à Haïti. De toute manière, nous vivons dans un monde actuellement où les écarts dans tous les pays du monde, entre riches et pauvres, ne font que se creuser.
Attention à la marche, hein, parce qu'on a des marches très hautes là pour traverser. Et on arrive place de la République, ici à Erevan en Arménie. Là aussi, énormément de lumière, avec des bâtiments en arc de cercle. On est sur une place qui est investie par une scène, puisque évidemment dans le cadre du sommet de la francophonie, il y a des concerts. Et puis sur cette place centrale, avec une fontaine illuminée de rouge, on a des coursives, on a des colonnes de pierre massives, des bâtiments très massifs, on pourrait se croire à Kiev par exemple, dans certains endroits de Moscou. Et on a cet héritage, évidemment, ça a été construit avant 1991, date de l'indépendance de l'Arménie.
Ben, c'est très beau. C'est très beau, ça a un côté un peu austère, mais c'est très beau. Et je dois dire que ça fait contraste avec ces immeubles un peu modernes qui font commerce actuel, un peu farfelu. Donc il y a cette sorte d'élément massif. Et aussi il y a ce côté un peu plus moderne, je dirais, un peu plus ville américaine.
Ici à Erevan, il y a des quartiers très différents, Lionel Trouillot, des lieux de vie populaires, des endroits très pauvres sur les hauteurs, et puis de belles vitrines au centre-ville, comme on l'a vu, et puis des produits comme ça de consommation qui sont inaccessibles pour la majorité des Arméniens. Le salaire moyen ici est de 275 euros pour avoir une valeur étalon. Un peu comme en Haïti, c'est encore plus faible, donc il y a les mêmes inégalités en fait.
Et oui! Et en plus, en Haïti, il y a quand même une bonne partie de la population qui ne travaille pas. Il faut réaliser qu'un grand nombre d'Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est terrible. Mais vous savez, ici, j'ai quand même remarqué dans cette atmosphère un peu de riche de consommation, qui est celle de cette ville, de temps en temps, on voit passer quelqu'un et on voit la misère sur son visage, dans sa façon d'être vêtu.
Alors c'est vrai que quand on écoute le récit des autres, on regarde sa vie autrement.
Oui,
c'est ce qui se passe dans votre livre.
Tout à fait. Il faut ramener les individus à un peu de modestie. Il faut pouvoir se regarder, non pas dans sa vanité, je veux tout, mais en mettant sa propre condition en comparaison avec d'autres conditions. Les gens, ils ne font pas ça.
Et du coup, quand on lit votre livre, Lionel Trouillot, on s'aperçoit que se confronter à d'autres lieux permet de reconsidérer sa vie.
Totalement, dans les grandes comme dans les petites choses. Il faut toujours être habité par le doute. On a trop de certitudes sur ce qui pourrait faire notre vérité humaine. Tant qu'on n'a pas été à l'épreuve, justement, de l'autre, de conditions historiques, de situations, on est justement une enfant gâtée ou un enfant gâté par la société. Je pense qu'il y a des sociétés qui produisent beaucoup d'enfants gâtés. Je pense.
Voilà. Un accident quasiment en direct devant nous. Non, ici, on rigole pas. Hein. Ça a été limite. Il y a les valeurs de l'éducation aussi dans ce livre. Plein de choses, hein, Lionel Trouillot. Il y a le capitaine qui dit à Aude à un moment, tu veux savoir la différence entre le passé et le présent. Hier, il y avait une armée de parents pour te guider vers l'âge adulte. Et ça, ça change tout, surtout dans un milieu pauvre.
Ça change tout. C'est vrai que dans les bonnes familles, ce qu'on appelle les bonnes familles, on a beaucoup de parents, on a les voisins qui sont aussi des parents, quand les quartiers existent encore de manière resserrée, on a tout un monde qui nous dit, voilà comment tu dois devenir. Et parfois, ça nous écrase. Ça écrase les individualités. D'être dans ce devoir de reproduction du même, surtout dans les milieux bourgeois en Haïti, où c'est horrible, avec le mépris du populaire, avec la distance comme seul signe de distinction. Maintenant, dans les quartiers pauvres, ce sont des enfants qui grandissent seuls, littéralement abandonnés à eux-mêmes. Il y a d'un côté ceux qui sont écrasés par des traditions lourdes qui ne reproduisent que préjugés et mépris, et il y a ceux qui naissent sans aucun abri, sans aucune voix pour leur dire « Tu sais, tu pourrais voir les choses autrement. »
Merci beaucoup, Lionel Truyot.
Merci à vous.
On s'est retrouvé dans un lieu un peu particulier.
C'est vrai. Mmh. Et c'est bien d'aller vers l'ailleurs.
Exactement. « Ne m'appelle pas capitaine », paru chez Actes Sud. C'est un roman absolument génial, très émouvant, qui va vous faire réfléchir sur la vie et sur votre propre vie.
On quitte Erevan et on rejoint en studio Clémence Rochefort pour un club francophone autour de son père défunt Jean Rochefort. Avant ce moment facétieux, plein de surprises sonores, voici le dernier titre de Feu Chatterton. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle. C'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser, mon amour pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse aux sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile, avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville, et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est génial. On le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique.
Yeah.
C'était Feu Chatterton avec Écran Total.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
C'est le club francophone à présent, avec un instant de radio un peu suspendu en cet été 2021 particulier. Bonjour Clémence Rochefort.
Bonjour.
Votre livre Papa est un livre de souvenirs et de réflexions sur la vie, la mort et votre lien à vos parents aussi. Vous êtes la fille cadette de Jean Rochefort, vous êtes née en 1992 et cet écart d'âge avec lui vous a parfois interloqué, surtout quand les autres s'en mêlaient, parce que c'était ça le problème.
Oui, exactement. J'ai des souvenirs davantage à l'école où c'est peut-être un peu plus douloureux d'avoir un père plus âgé, un père un peu différent des autres. Et c'est peut-être à ce moment-là. Mais après, j'en ai vite conclu que c'était une chance. On n'a pas perdu de temps, en fait.
Jusqu'à votre sixième, vos parents mentaient sur leur âge. Vous écrivez ça avec vous. Ils se donnaient 50 et 55 ans.
Oui, exactement. Alors que mon père, je crois, en avait 15 ans de plus. mais oui, c'est vrai. Oui, il m'avait peut-être pour me préserver un moment. Puis ouais. Ça s'est fait progressivement, tout ça.
Vous avez eu peur de sa disparition depuis toujours?
Oui, depuis toujours, oui. Je l'ai vu vieillir un peu plus vite que les autres pères. Et à ce moment-là, oui, plus à 16-17 ans, en fait.
Ouais.
Avant, parce qu'après, c'était un père très dynamique, il travaillait beaucoup, donc je le ressentais pas beaucoup. Mais oui, ça s'est avéré une chose qui m'a beaucoup inquiétée.
Bon, vous imaginez en tout cas dans ce livre plein de choses, encore aujourd'hui, hein, parce que vous faites vivre sa mémoire. Vous imaginez ce qu'il aurait aimé lire, par exemple. Et vous citez le premier livre d'Edouard Baird, Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Et vous dites ça aurait plu à mon père. D'ailleurs, il parle de lui.
Oui, exactement. Genre de choses, le voir au théâtre, voir des personnes comme ça qu'il aimait beaucoup. Je pense à Guillaume Canet, à Vincent Delerme. Il s'approchait beaucoup de cette nouvelle génération du cinéma, de la chanson. Il trouvait que c'était important de pas rester dans l'entre-soi du conservatoire, un peu de s'imprégner de toutes ces personnes-là. Et la transmission comptait beaucoup pour mon père. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai énormément pensé à la transmission.
Alors, Edouard Baird nous a justement parlé de votre père, figurez-vous. Lors de la sortie de son livre dans la librairie francophone, on a retrouvé cet instant. Écoutez.
C'était à la fois quelqu'un que j'aime personnellement, mais c'est aussi un monument de ce pays. J'aime bien les gens qui sont des monuments. C'est ça qui fait l'identité d'un pays, plus que les frontières ou que les brevets. J'ai l'impression que ce sont des personnalités, des grandes voix écrites ou parlées, oui.
Qu'est-ce que ça donne, Jean Rochefort? Vous l'imitez,
vraiment? Non, mais je me trompe. En fait, mon personnage, il cherche à imiter. Parce que,
oui.
Mais c'est plus un truc à la Marielle. « Oh, mon grand, non, mais ça va pas. » Donc, c'est plus proche de Marielle ou de Noiret. Il cherche
un Marielle aussi.
C'est ces voix de comme ça. Mais c'est des voix très enveloppantes, comme ça. C'est des voix qui vous prennent dans les bras, qui vous rassurent. T'inquiète pas, mon vieux. Ne t'inquiète pas, rien ne s'arrange jamais. Donc, ça sert à rien de s'inquiéter. Et c'est pas Rochefort, voilà. C'est une époque.
C'est un mélange.
Une époque comme ça. C'est un type de voix masculine, ça doit être... Je dois chercher mon père.
Édouard Baird, grand admirateur de Jean Rochefort.
Oui, très grand. Et oui, il disait, je dois chercher mon père. Et c'était réciproque. Mon père l'a un peu pris aussi sous son aile. Et il y avait une entente artistique et humaine à la fois. Et ils s'étaient rencontrés, je crois, dans les années 2000. Et ils ne se sont plus jamais quittés. Ils se téléphonaient beaucoup tout en se vouvoyant. Il y avait un respect. Et ils se racontaient des choses très intimes en se vouvoyant. Et j'aimais beaucoup cette relation.
Alors l'éducation était particulière avec lui. Quand vous étiez petite, Clémence Rochefort, votre sœur et vous, avec les deux, il disait « Si vous faites une bêtise, pour vous punir, je vous mets devant l'un de mes films ».
Oui. Exactement, il n'a jamais voulu nous obliger, enfin, entre guillemets, il savait déjà avoir un père connu, quand on se promenait avec lui dans la rue, on nous arrêtait, il savait déjà que ça pouvait être un poids, il ne voulait jamais en rajouter, et ça j'ai beaucoup aimé ça de la part de mon père finalement, moi j'ai vu ses films assez tard.
Ah oui, pas quand vous étiez enfant?
Non, pas du tout, et plutôt seul, voilà, quand j'en avais envie, je l'ai regardé, et c'est vrai que c'était très humble de sa part, ça faisait partie de lui.
Alors, il tenait aussi à ce que vous vous leviez tôt.
Ça aussi, c'était l'éducation selon Jean Rochefort. Même le week-end, même les vacances, hein, écoutez les enfants, si vous êtes avec vos parents en train d'écouter la radio, c'est 9 heures maxi. Sinon, il y a une technique, hein, avis à tous les parents, un verre d'eau dans la figure, quand même, d'un verre d'eau froide, au troisième passage. Hein, donc on savait qu'après le deuxième passage, il fallait se lever.
Oui, exactement. Il avait eu un père très exigeant avec lui et il a été souvent révolté contre son père. Et après, il a dit, je le remercie parce qu'il m'a inculqué le goût de l'effort, du travail. Et nous, il a absolument voulu nous l'inculquer. Il disait qu'on venait déjà d'un milieu assez privilégié. Donc, c'était la moindre des choses qu'on fasse doublement des efforts. Mmh. Et ça aussi, moi, je le remercie maintenant.
Et c'était un homme mélancolique. Vous le présentez comme ça. Il se présentait comme ça. Qui imaginait même parfois mourir plutôt que prévu. Et vous semblez avoir hérité de cette douce mélancolie. D'ailleurs, il le décèle avant de partir, Jean Rochefort. Les personnes mélancoliques donnent toujours le change dans la vie, comme ça, en s'appliquant à faire illusion, à faire le clown tout le temps. C'est ce qu'il faisait, votre papa.
Oui, exactement. Il y avait une expression, oui, mon père mélancomique. Beaucoup de personnes qualifiaient mon père de... J'aimais beaucoup ce terme. Et oui, c'est vrai, il avait peut-être décelé ça aussi chez moi. Et c'était la politesse du désespoir, le rire. Il disait souvent ça à mon père. C'est exactement, en parlant de Coluche, notamment, des personnes comme ça. Il aimait beaucoup ces personnalités-là. Et c'est vrai qu'on imaginait toujours mon père très drôle, mais il avait toujours cette part un peu sombre. Et moi, finalement, paradoxalement, cette part sombre me rassurait aussi. Il disait, voilà. Il est
un peu comme moi, quoi.
Voilà, et puis il est aussi comme ça, papa. Enfin, il n'est pas que...
Mais vous êtes comme ça vous-même, hein, Clémence. Hein.
Ouais.
Vous êtes très souriante, vous riez tout le temps.
Oui, c'est une petite devanture.
Ouais. C'est pas que de la joie de vivre.
C'est les deux, ce sont les deux. Mais une forme de politesse, de respect des autres, ça comptait. Mon père, il était toujours joyeux quand il voyait des personnes. En revanche, quand il avait une part sombre qui arrivait en lui, il se retirait par politesse.
Alors, vous allez dans des restaurants chics avec lui, hein. C'est quand même un peu la belle vie, hein. Vous avez une enfance dorée, on peut dire ça, Clémence, hein. Il disait au serveur qu'il ne pouvait pas donner un gros pourboire à cause de sa femme et de sa fille. Qu'est-ce qu'il disait exactement?
Oui, il voulait toujours nous mettre dans des positions
inconfortables.
Exprès, il disait toujours bon, elles sont très radines, surtout ne vous mariez pas ou devenez homosexuel. Donc tout le monde était gêné, mais c'était sa manière de. Il voulait faire rire les autres par tous les moyens, mon père. Donner de la gaieté aux autres. J'ai beaucoup vu ça chez lui. Et ça, c'était très beau de voir ça.
Il n'aimait pas les dîners mondains, sauf un avec la reine d'Angleterre.
Oui, exactement. Il n'était pas du tout au courant qu'il y avait la reine d'Angleterre à ce dîner. Mmh. C'était sous Giscard à l'Élysée. Et puis, il pensait à un cocktail avec beaucoup de monde. Et il s'était retrouvé à 10 personnes. Il parlait très peu anglais, mon père, voire pas du tout. Et finalement, il s'était retrouvé en face d'elle. Et elle qui adorait les chevaux et en plus qui parlait français, il avait passé un moment délicieux. Et ça
parlait de chevaux tout le long.
Voilà. Ouais. Il fallait qu'il y ait un intérêt aux choses. Ouais. Les mondanités, un dîner uniquement pour les mondanités, ça l'intéressait pas. Mais il aimait les petites réunions justement pour dialoguer, mon père.
Jean Rochefort, passionné par les chevaux, il nous en avait parlé dans la librairie francophone en 2011. Voici un extrait à propos du film Cartouche. C'est vrai que vous avez d'ailleurs eu cette passion pour le cheval, Jean Rochefort, lors du tournage du film Cartouche de Philippe de Broca.
Voilà.
Il y avait Belmondo qui est très sportif, qui était très à l'aise, et vous étiez quand même un peu tétanisé.
Moi, j'étais tétanisé d'amour. Et aussi parce que j'étais moins...
Tétanisé d'amour.
Ah oui, je n'endormais plus la nuit d'avoir le désir de monter à cheval le lendemain pour le film. Mais en général, je me cassais la gueule tout le temps. Belmondo n'est jamais tombé de quoi que ce soit, jamais de sa vie. Et j'en ai marre, il m'agace. Et alors ?
Le message est passé.
Hein, il est énervant. Hein.
Il est énervant.
Oui.
Belmondo est un acteur énervant.
Très énervant. Et alors, là, j'ai eu un coup d'amour.
Le coup d'amour, comme il dit, pour les chevaux. Clémence Rochefort, comment il vous parlait des chevaux? Comment avez-vous vécu cette passion à ses côtés, vous?
On sentait que c'était un peu le passage obligé, soit monter à cheval ou alors s'en occuper. Et je l'ai vécu, peut-être que je dirais que c'était un peu une passion familiale envahissante de temps en temps, mais en même temps, je dirais que ça m'a appris plein de choses. Ce recul, cette vie à la campagne, ce retour au crottin, comme il disait mon père, il disait que c'était très important, de pas uniquement, que ça enlevait un peu d'ego, tout ça, il avait raison. Et finalement, de cette enfance à Rambouillet au milieu des chevaux, j'en garde un beau souvenir et un enseignement un peu sur la nature, sur la vie, sur autre chose. Peut-être que si j'avais été à Paris pendant toute ma scolarité, j'aurais été complètement quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est un service que mes parents m'ont rendu.
Le cheval est d'abord historique. En plus, il est très inspirant pour les artistes parce que c'est un animal d'une extrême beauté sensuelle pour nous. Il y a une sorte d'étrange cousinage entre les chevaux et nous. Et les artistes se sont beaucoup servis des chevaux comme modèle, oui, c'est vrai. Bien sûr, on sait le dominer, on peut le dominer, mais on n'a jamais cette osmose mystérieuse qui peut se produire entre un cheval et un homme, car quand l'osmose est là, il n'y a plus besoin d'un dominant. J'ai eu la chance d'avoir des chevaux que je mettais au monde moi-même, donc il y avait des complicités extrêmes. J'ai appris le misanthrope, le rôle d'Alceste, sur une jument qui s'appelait Blandis, et j'ai appris Don Quichotte sur le dos de sa fille. C'est quand même pas mal, c'est une belle lignée.
Incroyable, Jean Rochefort, avec cette passion des chevaux. Il était capable de tout hein, pour monter sur scène, pour faire rire le monde, le public et au cinéma aussi. Et pourtant, vous dites qu'il avait du mal à faire les choses du quotidien. Garer et retrouver sa voiture dans un parking, remplir des papiers administratifs. Il disait même être inapte à la vie quotidienne.
Oui, ça me fascinait ça chez mon père parce qu'il pouvait faire rire milliers de personnes sur scène au théâtre la veille et le matin quand on prenait un avion dans l'aéroport, quand je trouvais la porte d'embarquement du vol, il me disait mais quel talent. Et je me dis, on est en train un peu d'inverser les rôles et ça me fascinait. Et je pense qu'il disait toujours que c'était un peu la moindre des choses d'un comédien d'être un peu inapte à la vie quotidienne parce que ce refuge vers la fiction veut bien ouais, dire quelque chose souvent. Et c'est vrai que mon père me racontait toujours que son père lui disait toujours tu ne feras rien dans la vie. Enfin,
oui, parce que c'était un rêveur.
Oui, voilà.
Et c'est ça qui le désolait. C'est qu'autour de lui, il n'y avait pas assez de rêveurs. Il fallait rêver. Et vous, il vous dit d'ailleurs, Clémence, écris, tu es faite pour ça. Et il vous incite à être une rêveuse, donc j'espère que vous allez continuer après ce livre-là et à faire autre chose.
Exactement. Hein,
vous n'avez pas écrit encore sur votre père.
Non, pas du tout.
un roman pour faire rêver.
Voilà, un roman pour faire rêver sur un autre sujet. Ouais. Il avait, comme je disais, à l'instant, ce goût de la transmission. Quand il sentait quelqu'un doué pour quelque chose, il le disait, il ne se gênait pas et inversement. Et il m'avait, entre autres, dit ça.
Ouais, vous êtes une rêveuse, vous ?
Oui, assez.
Un peu, oui.
Ouais.
On va terminer avec une petite compilation de moments drôles avec lui. À notre micro, écoutez.
Il fallait l'imaginer avec son nez tout rouge, 8 cheveux graisseux enroulés sous sa casquette. Vraiment, un gars de la Normandie, quoi. Et il a dit cette phrase en me regardant avec l'accent, « Sacré bon Dieu, je t'ai vu hier à la télé, je pensais que tu faisais du cinéma. » Il croyait que j'étais éleveur professionnel. Ça a été pour moi une consécration extraordinaire. Un sexe de cheval sur un homo sapiens, l'homme est encombré pour toute sa vie.
Ah oui, ça c'est clair.
Ah oui, ça c'est très embêtant.
Surtout dans les situations excitantes.
Oh ben ça, c'est ça toutes ces femmes que je voyais courir en hurlant.
Derrière vous sur les tournages, c'est
hélas,
ça.
Hélas, non. J'imite très bien le chimpanzé.
Ouais, il m'avait fait tous les animaux à un moment. Bon, merci beaucoup Clémence Rochefort. Merci. J'ai été ravi de vous accueillir, vraiment. C'est très émouvant pour moi de vous avoir face à nous ici dans la librairie francophone. Papa est paru aux éditions Plomb.
Merci à vous.
À bientôt Clémence, bon été à vous.
Merci beaucoup.
Enfin une interview intelligente. Enfin quelque chose de culturel.
La librairie francophone estivale.
Oh, je pense que ça va être diffusé partout.
Chaque semaine, dans la librairie francophone estivale, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. Voici le groupe toulousain El Gato Negro, inspiré par la musique latine. Tout le monde est installé, instrument à la main. On écoute guitare de plage, El Gato Negro.
L'été est lourd et l'ombre se fait rare. Rien de mieux à faire que 2 accords de guitare étalés de tout mon long. nuit sur le carrelage. Je tends à peine le bras et prends mon instrument de plage. La saison sera bonne, je révise mes classiques, des balades et des romances pour aller miauler dans les criques. Je suis le Latin lover, les hommes de boycott, on me dit coureur de jupons ou mangeur de culottes, c'est vrai. Je fais des ailes, j'ai quelques coups d'avance. Je suis le mec trop sympa qui pourrait gâcher tes vacances. Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé de forêt. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je ne joue pas de l'électrique, je ne connais pas mes gammes. Toi le roi de la technique et moi le bouffon de ces dames. Ma gratte est en carton, les cordes sont en plastique. Tu joues dans les banquets et moi j'anime les pique-niques. Le typique chic type sympa et à la mode et qui se fringue dans les fripes et qui rentre dans les codes. Tu prépares des cocktails, tes blagues sont mortelles, ton sourire éclatant et ta chevelure en bordel. Tu es tellement aimable, tu fais dans la dentelle, mais moi je pioce dans le sable quand tu crèches à l'hôtel. Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé de forêt. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé de forêt. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je reçois la critique, j'entends que ça jase. Les mecs sont hystériques dans le Latin jazz. D'où vient-il ce chat? D'où tient-il ce charme? Grimper au rideau et monter dans les arbres. J'y tends des sables, mal poli et aimable. Je ne fais pas couler de larmes. La guitare est mon arme et j'ai déjà cousu la bouche au mec de la guitare manouche. Mais il m'arrive de prendre la moche quand un peu que prend la mouche. Ça fait bander des bandits et des babas en babouche. Et même danser des mamies et des dandies des bains douches. Je plais à toutes les femmes, sauf à la mienne. J'aurais pas dû prendre ma guitare pour notre lune de miel. Écoute-moi ma biche, l'année prochaine je suis riche. Je rembourse tes parents et on part vivre en Autriche. Saltimbanque, plouc de calanque, branleur en planque, interdit dans les banques. Et si ma musique est toxique, la tienne est à l'amiante. Moi je manie le pipeau et toi la flûte traversante. Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé de forêt. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé de forêt, 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 forêt. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz.
C'était El Gato Negro dans le studio de la librairie francophone Estivale.
La librairie francophone Estivale. Emmanuel Kérad.
Chaque semaine, pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite aux États-Unis dans la librairie française Albertine à New York City. Bonjour Myriam Briden.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Comment allez-vous ?
Merci de vous inviter.
Mais je vous en prie, vous êtes co-directrice de la librairie. Vous pouvez nous décrire ce qu'il y a autour de vous, ce que vous voyez à travers la vitrine ou la fenêtre ?
Alors, la librairie Albertine a pour particularité de ne pas avoir de vitrine.
Oui.
Alors, ce que je peux vous décrire, parce que nous sommes hébergés, en fait, dans un hôtel particulier qui
avec
appartient au service culturel,
oui.
Voilà, oui. Au service culturel de l'ambassade de France. Mais à travers les portes de la librairie, ce que nous voyons donc, c'est le lobby de cet hôtel particulier. Et au centre du lobby, nous avons une sculpture, le jeune archer, qui a été identifié comme une sculpture de Michelangelo.
Ah oui.
Et qui a été la pièce maîtresse, en fait, de l'exposition Michelangelo et la sculpture qui a eu lieu au Met il y a 2 ou 3 ans de cela.
D'accord.
Voilà. Donc c'est pas si mal.
C'est pas si mal. Quelle est l'ambiance dans les rues de New York en ce moment?
Alors, l'ambiance est à la Dolce Vita. La ville réouvre.
Ah oui.
Et tout le monde profite d'être ensemble, de se retrouver dans les parcs, aux terrasses de restaurants. Oui, goûter la joie de revivre ensemble. Et
ouais.
Ça, c'est très agréable, malgré la chaleur. Voilà.
Bon, on espère que ça va durer, hein, de votre côté. On vous a demandé de choisir un livre de poche pour les vacances. Quel livre conseillez-vous, Myriam ?
Alors, moi, je vous conseille La Sonate à Bridge Tower, un roman d'Emmanuel Dongala, son dernier roman en date,
ouais.
Et qui a été publié aux éditions Babel, Actes Sud. Donc la sonate à Bridge Tower nous plonge au cœur du siècle des Lumières. En avril 1789, George Bridge Tower, qui est un jeune violoniste, prodige, mulâtre, arrive à Paris avec son père, qui est originaire des Barbades. Après 2 concerts, George séduit le tout Paris, mais la Révolution française éclate et père et fils trouvent refuge à Londres, sous la protection du prince de Galles, avant de s'installer à Vienne où George deviendra l'ami de Beethoven. Je ne vous en dis pas plus, car je ne veux pas saboter le suspense du livre, ni gâcher votre plaisir de lecture. Mais pourquoi lire la sonate à Bridge Tower aujourd'hui ?
Pourquoi ? Oui.
Parce, que c'est un formidable roman historique, parce que Dongala nous propose de redécouvrir l'Europe pendant la Révolution telle qu'elle n'est pas enseignée dans les manuels d'histoire. Et il est intéressant de noter que la sonate à Bridgetower est publiée en 2017, soit 3 ans avant que les manifestations Black Lives Matter ne secouent la planète, 4 ans avant la révolution culturelle que nous vivons aujourd'hui aux USA, car en lisant la sonate à Bridgetower, la question qui nous vient immédiatement aux lèvres, c'est « Et nous ?» Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les discriminations ? Eh bien, je crois que l'actualité a tranché.
Exactement. Merci beaucoup, Myriam Bryden.
Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Et on vous attend à New York, donc, dès que les frontières réouvrent.
Eh oui, on en parle depuis quelques années. C'est vrai qu'un jour, il faudra qu'on vienne à la librairie Albertine. Je vous promets qu'on le fera, dès qu'on pourra.
Merci beaucoup.
Vous êtes libraire, donc, à New York, dans la célèbre librairie Albertine, où on écoute la librairie francophone estivale sur France Inter, donc, en ligne, tous les samedis, à 11h, heure locale. Have a nice day, Myriam, à New York.
Thank you, you too. À bientôt.
À bientôt. Et notre conseil aujourd'hui, c'est l'auteur belge Caroline Lamarche, prix Goncourt cours de la nouvelle 2019 pour Nous sommes à la lisière, qui est sorti en poche chez Folio. Il est beaucoup question d'animaux et surtout des liens entre les animaux et les humains. De quoi sommes-nous à la lisière, Caroline ?
Écoutez, j'ai choisi ce titre en le tirant d'un livre de Pierre Gascard intitulé Les Bêtes, qui a été publié en 1952. Et la phrase, c'est à tout instant, la bête peut changer, nous sommes à la lisière. C'est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, on voudrait dire, à tout instant, l'homme peut changer, nous sommes à la lisière, nous sommes quand même quelque part à la lisière d'un effondrement climatique, planétaire, etc. Cette notion de lisière s'applique à plusieurs étages, je dirais, d'abord entre l'homme et l'animal. Ce sont des histoire d'humains en crise, en quelque sorte, qui croisent sur leur chemin des animaux brièvement ou de manière plus forte.
Plus intense. Il y a cette première nouvelle qui mérite à elle seule que l'on se procure votre livre, Caroline, l'histoire de Louis et de Froufrou, un canard qu'il a récupéré au refuge pour oiseaux dans lequel il travaille, une canne très exactement. Les oiseaux qui sont, selon vous, souvent un peu comme les humains lorsqu'ils sont privés de liberté.
Mais écoutez, en fait, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un refuge de revalidation pour oiseaux blessés et j'ai compris beaucoup de choses du monde humain et de l'urgence qui se met en place quand un animal souffre, de cette espèce de solidarité, d'impuissance, de courage des bêtes aussi. Et ça m'a appris beaucoup sur l'homme, mystérieusement.
Et ce lien d'affection, c'est possible entre un homme et un canard ?
Ah bah écoutez, c'est très autobiographique.
C'est vrai, vous l'avez vécu ça ? Vous avez vécu une histoire d'amour avec un canard ?
Ah bah j'ai vécu une love story avec un canard. Je dirais même que j'ai écrit la nouvelle, qui est la plus longue du recueil, pour me remettre du départ vers la liberté, vers la sauvagerie de cette bête, qui, si j'avais un peu insisté, serait restée près de moi. Mais j'ai vraiment, quand on aime, on laisse partir.
Vous dénoncez au passage aussi le mal que l'on fait aux oiseaux, avec les herbicides dans les champs qui les rendent malades. Les moineaux, par exemple, qui se font de plus en plus rares en ville, on le dit, et on le constate d'ailleurs, mais aussi à la campagne. Les oiseaux sont des animaux moins considérés que les autres par les hommes ?
Écoutez, moi dans mon enfance, mon père m'avait fait une mangeoire à oiseaux et un petit théâtre de marionnettes. Et j'ai toujours dit que les deux lieux de ma consolation, c'était la maison de la nature et la maison de la fiction. Et aujourd'hui, la maison de la nature, elle souffre beaucoup. Et on sait qu'en France, 30% des oiseaux ont disparu en une quinzaine d'années. En Belgique, c'est 50%.
Ah oui.
Les insectes ont disparu, disparaissent. Et un jour, comme l'écrivait Rachel Carson, déjà dans les années 60, un jour le ciel sera vide si nous continuons.
Il y a aussi Mensonge, le cheval et cette gamine qui va rêver grâce à lui. Le cheval qui incarne souvent l'espoir et la liberté.
Ce cheval s'appelle étrangement Mensonge. Je ne sais pas d'où m'est venu ce titre. Quoi qu'il en soit, pour cette jeune fille, les adultes mentent, c'est certain. Et ce cheval représente une espèce de liberté et en même temps de risque, parce qu'elle n'a jamais appris à monter en réalité.
Mais elle dira « J'aimerais sentir le cheval toute ma vie. J'aimerais qu'on sente, quand on m'approche, l'odeur de mensonge qui est celle de mon amour. » Le hérisson, souvent discret, souvent à la lisière, justement. Je voulais qu'on termine avec lui parce que c'est vraiment l'animal à la lisière.
Et en voie de disparition aussi, d'ailleurs.
Tant de dangers le menacent.
Ils n'ont plus d'insectes,
Comme un petit frère que l'on veut protéger. Il faut toujours protéger un petit frère, mais parfois, on n'y arrive pas toujours comme on veut. C'est ce que ressent cette femme qui sauve un hérisson sur la route.
Oui,
c'est ce qu'elle dit d'ailleurs.
Et puis cet hérisson est un peu une métaphore aussi de deux choses. De l'amour et d'un livre que la narratrice ne parvient pas à lire, qui est l'Ulysse de Joyce, et qui est un livre épineux, difficile à apprivoiser. Et Le Hérisson est aussi très difficile à apprivoiser, comme L'Amour du reste. Et donc, c'est une, je pense que c'est la nouvelle la plus ironique. Souvent, quand je parle d'amour, je suis extrêmement ironique. Et donc, c'est une nouvelle hérissée de piquant et de tendresse.
Mais vous allez très loin, Caroline, quand même, avec ces analogies. Entre un petit frère et un hérisson. Et entre les deux, franchement, il n'y a pas photo.
Mais je pense que c'est cette femme qui est assez délaissée par l'amour, en tout cas, sa vie est un ratage amoureux, disons-le. Ouais. Elle voit dans les animaux un peu fugitifs et un peu compliqués, des sortes d'alter-ego. Mais ceci dit, ce n'est pas du tout un recueil, un message. Je me suis rendu compte en rassemblant ces nouvelles que j'avais beaucoup écrit au fil des ans, depuis 20 ans, sur les animaux. Donc, ce n'est pas intentionnel. Ils étaient là à l'origine de la nouvelle ou bien ils l'ont traversée.
Et le livre de Caroline Lamarche, Nous sommes à la lisière, est paru en poche chez Folio. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de la chanteuse réunionnaise Christine Salem, qui a choisi une auteure de La Réunion.
Isabelle Kichenin, qui a écrit son premier roman en 2017, qui s'appelle Gourmande, mais qui parle, des séquelles, des violences sexuelles sur les enfants.
Et l'inceste aussi.
Et l'inceste aussi. Enfin, j'aime bien sa façon d'écrire, sa plume, quoi, comme elle dit elle-même. Elle a mis en place aussi ce qu'elle appelle l'écriture bienveillance à La Réunion, où elle fait des ateliers d'écriture pour les femmes en difficulté. Elle intervient aussi dans les prisons. Enfin, elle va à fond. Enfin, je dis ça parce que moi aussi, je travaillais dans le social pendant des années, donc c'est pour ça, c'est son travail aussi, mes pattes par rapport à ça aussi.
Mais vous avez quitté d'ailleurs le travail social pour la musique.
Pour la musique.
Mais assez tard d'ailleurs. Hein. Vous avez longtemps résisté, vous avez tenu bon. Hein,
On a essayé, mais à un moment donné, il fallait faire un choix. Ouais.
Alors Isabelle Kichenin, qui est née à Dijon, mais c'est l'île de naissance de son père, et elle est installée évidemment sur l'île de La Réunion depuis de nombreuses années. Et vous avez cité son livre Gourmande, paru en 2017. Elle a conçu aussi un programme d'accompagnement à l'expression, associant ateliers d'écriture, médiation et aussi bibliothérapie. Elle a monté une structure nommée Plume. Merci beaucoup Christine Salem. On va terminer justement avec de la musique de La Réunion. On va choisir dans votre album un extrait. Je dis non, par exemple, qui dénonce le racisme.
Ouais, qui dénonce un peu tout.
Un peu tout. Voilà, Christine Salem dans le bonus créole de la librairie francophone. À bientôt, Christine.
À bientôt.
Et je dis non à cette machine de guerre, la façon dont vous labrez la terre, même l'océan, il n'est plus clair. Et je dis non à ces peuples en colère, à regarder pleurer nos frères sur qu'on deviendra tous poussière. Et je dis non, 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 je dirai non. Et je dis non, 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 je dirai non. Et je dis non, la vie n'est pas une galère, il suffit de vous aimer en frère sur que l'amour te rendra fier. À tous ces escrocs, toutes ces machines de pédos, je t'invite à t'aimer, l'amour c'est beau. L'amour c'est beau, 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 beau. L'amour c'est beau. L'amour c'est beau, 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 beau. L'amour c'est beau. Je t'invite à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer. Raciste. Sur cette terre on est tous en exil, pourquoi te bagarrer pour ces barils. Et je dis non à tous ces pouvoirs qui nous maintiennent clipsés dans le noir, ne crie pas ta gloire, c'est que des espoirs. Et je dis non, 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 je dirai non.
Et c'est
la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Le Prince avec Arnaud Caillé pour la réalisation et la technique. Valentine Chédebois à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons dans le sud de la France, en Tunisie, et dans un célèbre restaurant breton. Et vous entendrez Mathias Malzieux, Maïlys de Kerangal, Boris Cyrulnik, Yann Kefelek et le prix des 5 continents, Beata Oumoubieï-Mérès. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.